est une rediffusion.
Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour cette émission consacrée à la santé au féminin. Priorité Santé vous donne la parole à vous, auditrices, sur des questions qui vous concernent directement avec des réponses simples, concrètes, en phase avec ce que vous vivez. Aujourd'hui, nous allons parler du suivi de la grossesse. Expliquer en quoi consiste cette prise en charge adaptée pour les futures mères en termes de consultation, d'examen, quelles recommandations pour prévenir les complications, faire en sorte que cette période à part dans la vie des femmes se déroule dans les meilleures conditions possibles, apporter une réponse appropriée au plus tôt en cas de malaise ou face à un problème plus grave pour la santé de la femme ou de l'enfant à naître. Car évidemment, la grossesse n'est pas une maladie. Pourtant, chaque jour, près de 830 femmes meurent dans le monde du fait de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Et près de 60% de ces décès, ils se produisent en Afrique subsaharienne. Alors aujourd'hui, nous allons parler prévention, consultation prénatale, suivi, dépistage, examen, prise en charge des symptômes, écoute des femmes enceintes, conseils en matière de nutrition, ce qui est conseillé de faire au cours de la grossesse pour qu'une maman en bonne santé accueille son bébé dans les meilleures conditions. Et bien sûr, l'invité de Priorité Santé est là pour vous répondre. Éviter les complications, se faire aider par des professionnels. Toutes vos questions, vous les posez sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro le 33 84 22 75 75. Ne pas rester avec des questions sans réponse. C'est donc ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui en votre compagnie. Monique Bansali, bonjour.
Bonjour, Madame Paré.
Vous êtes sage-femme d'État, responsable gouvernance à la clinique Marie Stopes de Dakar, au Sénégal.
Notre santé, si on en parlait.
Alors Monique Mansali, s'il y a bien un message à faire passer, bien sûr, on ne va pas se limiter à un seul au cours de cette émission, c'est certainement celui-là, mesdames, mesdemoiselles, surtout, ne pas négliger les consultations prénatales. Ce sont vraiment, Monique Mansali, des rendez-vous essentiels pour la santé des futures mamans.
La grossesse est une période très spéciale pour la femme. Pour vivre une grossesse heureuse, il faut que la femme respecte ses consultations prénatales. Cela permettrait de déceler assez tôt toute éventuelle complication qui puisse survenir pendant la grossesse et ainsi préparer la femme à accueillir son bébé en bonne santé.
Alors au cours de la grossesse, la future mère peut s'adresser à différents soignants, vous Monique Mansali, sage-femme, mais pas seulement, on peut aller voir d'autres soignants, d'autres praticiens.
Oui, bien sûr. Le suivi de la grossesse, tant qu'il n'y a pas de pathologie décelée dès le départ, il n'est pas obligatoire que la grossesse soit suivie par un gynécologue. Donc la femme enceinte peut se faire suivre par une sage-femme, par un gynécologue, par un médecin généraliste.
Une infirmière dans certains cas où il faut quand même qu'il y ait une spécialisation en obstétrique.
Bien sûr, surtout ici en Afrique, il y a les infirmières qui font aussi des consultations prénatales.
Alors Monique Mansali, dans certains contextes, ce ne sont pas justement des soignants formés qui vont suivre la grossesse, mais des membres de la communauté. Il y a toutes ces pratiques, ce savoir transmis de génération en génération entre femmes, en dehors des formations scientifiques. C'est aussi très important d'en parler.
Oui. Bon, moi je vais parler du contexte du Sénégal. Mmh. C'est vrai que dans certains villages reculés, nous avons ce qu'on appelle les cases de santé, où il y a des matrones qui s'occupent des femmes enceintes. Ces matrones sont des femmes qui sont formées pour la prise en charge de ces femmes tant que la grossesse n'est pas pathologique, tant que l'accouchement n'est pas pathologique.
Alors pour revenir à ces consultations prénatales, au pluriel, Monique Mansali, des questions très simples. Combien au minimum et combien dans la situation idéale, au moins et au plus?
Bon, la situation idéale voudrait que la femme puisse bénéficier de 8 consultations prénatales, c'est-à-dire une en début de grossesse ou plus tard avant la fin de la 12e semaine, c'est-à-dire jusqu'à 3 mois, et des consultations entre la 4e et la 9e semaine, 7 consultations à peu près. Mais ce nombre peut être dépassé selon le terrain, c'est-à-dire selon l'état de santé de la femme.
Et en ce qui concerne la prise en charge de ces consultations, par exemple, dans la clinique dans laquelle vous exercez, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est cher et qui paye?
Bon, moi, actuellement, je travaille pas dans une clinique où on fait des consultations prénatales en continu. Mais j'avoue que dans les cliniques privées, les consultations prénatales sont quand même un peu chères. Dans certains, la consultation sage-femme peut être payée entre 5 et 10 000. Et pour ce qui est de la consultation avec un gynécologue, c'est dans les environs de 16 000 francs, la consultation. Heureusement, il y a le secteur public qui est là. Là-bas, la consultation prénatale n'est pas du tout chère et c'est abordable pour toutes les classes sociales. Maintenant, la plupart du temps, pour les cliniques, la plupart des femmes qui y vont, c'est celles qui ont une prise en charge médicale et d'autres qui ont quand même les moyens de pouvoir se payer une consultation dans une clinique. Donc, il y a le choix.
On a bien compris différentes consultations, Monique Mansali, en fonction des étapes de la croissance du fœtus, trimestre après trimestre. Tout à l'heure, on aura des illustrations de nos auditrices. On disait en début d'émission, Monique Mansali, essentiel ce suivi de la grossesse, aussi pour l'écouter et puis, bien sûr, pour lui donner des conseils, faire des opérations de dépistage, parler de certains risques, de certaines maladies, et puis simplement pour au jour le jour dire, par exemple, ce qu'il est conseillé de manger, et puis des actions qu'il faut absolument éviter. On pense bien sûr à l'alcool, mais aussi d'autres pratiques comme le tabac.
Oui, effectivement. Lors des consultations prénatales, il faut toujours profiter de donner des conseils à la femme enceinte, des conseils sur l'hygiène de vie, notamment sur l'alimentation. Parce que quand on est enceinte, le fait que la femme soit pas bien alimenté, peut amener d'autres complications, que ça soit sur le fœtus ou chez la maman. Bon, en début de grossesse, il y a déjà les signes sympathiques de grossesse tels que le manque d'appétit, les vomissements et autres. Et à cette étape, si la femme n'est pas bien suivie, si elle ne reçoit pas les bons conseils, il y a une anémie qui peut s'installer dès le départ. Et si cette anémie persiste et que la prise en charge n'est pas bien adaptée, bon, il y a des répercussions sur le fœtus, telles que les retards de croissance intra-utérine, des menaces d'accouchement prématuré, menaces d'avortement. Donc, c'est un point qui a beaucoup d'impact négatif si elle n'est pas prise en charge assez tôt. On préfère que l'idéal serait que la première consultation prénatale se fasse avant la fin de la 12e semaine. Si cette consultation est faite assez tôt, le personnel médical pourra déceler certaines pathologies qui sont déjà là, existantes. C'est-à-dire voir est-ce que cette femme qui est là développe déjà certaines pathologies qui peuvent, en plus de la grossesse, être aggravées. Donc du coup, lors de la première consultation prénatale, c'est l'occasion pour la sage-femme ou le gynécologue de demander le bilan prénatal. La femme sera amenée à faire des tests tels que le groupage sanguin rhésus, si la femme ne le connaissait pas déjà, ne connaissait pas déjà son groupe sanguin, ou même si elle connaît et qu'elle n'a pas la preuve, c'est-à-dire une carte qui confirme que effectivement cette femme est de tel groupe, il faut toujours redemander le groupe sanguin rhésus. Il y a le test d'Hemel, voir est-ce que c'est pas un terrain drépanocytaire. Il y a la numération, formule sanguine et certaines sérologies telles que toxoplasmose, rubéole, syphilis. Vous voyez, il y a aussi le dépistage VIH. Ce test-là, par contre, n'est pas obligatoire. Mais il faut faire juste un counseling, demander à la patiente et lui expliquer le pourquoi. Si elle accepte, ça serait bien qu'elle le fasse pour qu'on puisse agir et éviter une éventuelle contamination. De transmission du fœtus.
Limiter la transmission mère-enfant en donnant des médicaments à la maman, c'est très important parce que comme ça, le bébé tout simplement naît en bonne santé et ça permet à la maman de continuer de s'en occuper sans plus se préoccuper. Tout de suite, des témoignages dans Priorité Santé, c'est notre palabre au féminin. Et comme toutes les semaines, c'est Charlie Dupio qui ouvre son micro pour de belles rencontres à la Maison des Femmes de Saint-Denis qui accueille des femmes victimes de violences et en situation de vulnérabilité. Autour de la table aujourd'hui, trois jeunes mamans, Fanta 20 ans, Macan 25 ans et Christelle 27 ans.
Toi tu as quatre enfants, nous.
Moi j'ai ma première fille à 17 ans, du coup c'est... Oui, à 17 ans j'étais encore petite, mon deuxième à 20 ans.
Bon, moi,
j'ai commencé mes visites. Je commence souvent mes visites à 2 mois de grossesse. C'est pour aller faire d'abord les premiers examens. Donc, après là, tu commences à aller à suivre une sage-femme. Et puis là, on te demande de faire d'abord la première échographie. C'est pour voir si la grossesse, elle est bien et si tout va bien.
Moi, en tout cas, quand j'étais enceinte, parce que moi, j'ai qu'un enfant. Mais le deuxième, j'ai fait une fausse couche. Quand j'ai eu ma première grossesse, je ne savais pas que j'étais enceinte. Parce qu'en ce moment, j'étais un peu mince. Je ne me sentais pas que j'avais quelque chose dans mon ventre. Donc, à 4 mois ou 3 mois comme cela, quand je mange la pomme, je vomis. Quand je sens l'odeur de cigarette, un coup, je vomis en même temps directement.
Et là, vous avez compris que vous étiez enceinte?
Ouais.
En fait, moi, je ne sais pas. Je sais pas après pour les autres grossesses ce qui va m'arriver, mais mon enfant il était tellement sage dans le ventre. En fait, il était trop sage. Mais je suis restée comme ça. J'ai pas été de celles qui ont des envies, celles qui font des nausées. Je me sentais bien dans ma grossesse. Et durant toutes ces consultations, l'enfant ne montrait pas son sexe lors des échographies. Mais moi, je me suis dit c'est un garçon.
Et là, il a quel âge?
Bon enfant, là maintenant il a 2 ans.
Moi je peux dire, j'aime pas être enceinte. Moi j'aime m'occuper des bébés. Si on peut me donner directement un bébé qui est déjà né. La grossesse, moi j'aime pas, je ne veux pas parce que du coup je fais beaucoup attention. En plus ça vient avec des maladies. Moi je suis beaucoup malade quand je suis enceinte. Je suis plus moi. Quand je suis enceinte, je passe des longueurs de journée à dormir. C'est pas vraiment moi. Si je reprends une grossesse vraiment, il faut qu'une personne soit vraiment là. Que je sais qu'il va prendre soin de moi parce que la grossesse, c'est pas évident.
Quand je suis enceinte, moi, à la première grossesse que j'avais eue, à la prise de sang, franchement, moi, je ne l'aimais pas. Tout le temps, du premier semaine jusqu'au 9 mois, il prend ton sang. Tout le temps, matin, c'est toi qui es à laboratoire.
Moi, j'aime.
Moi, j'aime parce que ça te permet de savoir que tu n'es pas malade, tu n'as rien.
J'aime
c'est
ça,
la partie là qui me plaît.
Moi,
quand je vais à l'hôpital, au lieu de demander consultation, machin, moi, je dis directement, je veux prise de sang.
Quelle alimentation vous avez eue pendant vos grossesses?
Nous, chez nous, quand une femme enceinte, elle doit beaucoup faire attention à ce qu'elle mange. Nous, on ne mangeait pas de viande. Par exemple, le porc, je ne mangeais pas des porcs et puis des trucs, les viandes, parce que des viandes de brousse. Donc, je mangeais tout simplement du riz, je peux manger le poulet et on peut manger la sauce avec les épinards. On mange plus des légumes, tu manges des trucs simples en fait. Moi, je prenais on appelle le pamplemousse, est très bon pour les enfants parce que quand tu prends beaucoup de pamplemousse, quand tu es enceinte, ça nettoie la peau du bébé. L'enfant sort très propre.
Moi, je ne savais même pas ça.
C'est ce qu'on disait. Moi, j'aimais manger les carottes. Parce qu'on dit ça aussi, ça rend le teint du bébé trop beau, tout et tout. Donc, j'aimais bien les carottes. Mais pas de boissons gazeuses, tout et tout, non.
La première préoccupation d'une maman, c'est de se rassurer que la santé du bébé est bonne et sa santé aussi, qu'il n'y a pas de maladies qui peuvent se transmettre à mère et enfant. Et c'est très important. Et là, s'il y a une maladie qui peut transmettre à mes enfants...
Le paludisme, l'hépatite B...
L'hépatite B, le sida, il y a beaucoup de maladies. On me donne déjà le traitement pour éviter que mes enfants soient contaminés.
En gros, les visites prénatales sont très importantes parce que ça te permet de savoir toujours comment ton enfant est placé, s'il est en bonne posture ou non, comment l'accouchement doit se faire. Si tu dois faire une césarienne ou c'est bon parce que malformation, tout ça, ça te permet de savoir tout ça. Et donc, c'est très important parce que ça te permet de savoir beaucoup de choses et de te préparer à beaucoup de choses.
Témoignage recueilli par Charlie Dupiot, des paroles de maman que vous avez certainement suivies, hein, vous qui exercez comme sage-femme d'État à Dakar. Monique Monsali, votre réaction, on entend ces femmes qui ont vraiment beaucoup de préoccupations en ce qui concerne la santé de leur bébé et aussi leur état. On entend une de ces mamans dire « Moi, franchement, être enceinte, je déteste ça. »
Ah oui, effectivement, j'ai entendu. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de femmes. Surtout pour les 3 premiers mois de grossesse, il y en a qui la vivent très, très mal à cause des symptômes tels que les vomissements, le manque d'appétit, l'insomnie. Mais bon, comme je l'ai dit tantôt, il est toujours bien de respecter ces rendez-vous, ces consultations prénatales, mais aussi et surtout de suivre les traitements donnés par le spécialiste de santé.
Parce que ça peut soulager. Tout de suite, une première question d'auditrice.
RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
Et en ligne du Congo, de Brazza, c'est Sveta qui est avec nous. Bonjour Sveta.
Bonjour.
Alors Sveta, votre bébé a déjà 6 mois et vous avez des questions directement liées à cette première grossesse parce que vous avez en projet d'avoir d'autres enfants, c'est ça ?
Effectivement.
Alors Sveta, déjà parlez-nous du suivi de votre grossesse. Vous aviez l'habitude de consulter à quelle fréquence ?
Je partais voir ma sage-femme toutes les fins de mois.
Toutes les fins de mois. Est-ce que vous avez connu des problèmes particuliers, des symptômes pendant la grossesse ?
Oui, j'ai connu. Avant, je n'en avais pas conscience jusqu'à ce que je fasse une première écho. Parce que, premièrement, j'avais des difficultés à tomber enceinte suite à une infection au chlamydia. Mm-hmm. Il m'a pris 3 ans à traiter et donc il fallait que je sorte de mon pays, que je me rende ailleurs pour me traiter. J'ai subi une cœloscopie. Et à mon retour, j'ai fait une année, je ne tombais pas enceinte. J'avais des troubles au niveau de mes règles, c'était compliqué. Et une fois, j'ai fait 2 mois, 3 mois, je ne voyais pas mes menstrues. Je me suis dit que j'étais enceinte. Mm-hmm. Et quand je vais faire le test, effectivement, j'étais enceinte. Je crois une semaine plus tard, j'ai perdu le bébé. Et puis, j'ai saigné pendant 11 jours. Mm. Et puis, j'ai commencé à remarquer des maux d'estomac. J'ai un fort appétit, je veux dire. Donc, je ne mangeais plus rien, j'étais fatiguée, j'avais très mal à l'estomac, je vomissais tout le temps jusqu'au point de vomir de la bile. Mm-hmm. Puis je me suis dit, mais pourquoi je sens tout ça? J'avais des douleurs, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai décidé, j'ai dit, il faut que j'aille voir un gynéco. Donc, j'arrive à l'hôpital, je me fais faire une échographie, c'est là qu'on découvre que j'étais enceinte de 10 semaines d'aménorrhée.
Et ensuite, comment s'est passée la suite de la grossesse? On va aller jusqu'à l'accouchement, ça s'est passé comment?
J'ai fait ma première échographie, c'est là que j'ai su que j'étais enceinte. Et puis, on m'a demandé de refaire une autre, voire un mois après la première échographie. Donc, j'ai fait des démarches, je me suis renseignée, j'ai trouvé une sage-femme. Et puis, la première fois que je suis allée la voir, elle m'a dit « D'accord, mais il faut que tu fasses une autre échographie. » Alors, quand je vais faire, j'ai fait mon échographie, j'étais, je crois, maintenant à 3 mois, quelque chose comme ça. Et elle a commencé à me suivre, c'était normal. Mais quand je vais à l'échographie, l'échographe me dit que madame, vous avez un placenta bas prévu à accoucher. Mm-hmm. Je ne sais pas ce que c'était. Il ne m'a vraiment pas donné des idées en explication.
Oui.
Il faut juste arrêter de faire de longues marches. Il faut prendre du temps de se reposer, arrêter de soulever des trucs assez lourds et tout. Donc, il faut se poser, il faut arrêter de faire tout ce qui demande trop d'efforts physiques. Ah bon, donc, je roulais avec cette idée-là comme ça, de ma deuxième échographie jusqu'à la troisième, à la quatrième, je crois que j'en ai fait. Et puis, j'arrive, nous sommes le lundi 8 juin, je commence à ressentir, j'ai commencé à saigner énormément, ils sont rouges, noirs, c'est-à-dire.
Sveta, excusez-moi, quand on vous a dit que vous aviez un placenta prévia, bien sûr, dans une seconde, Monique Monsali va exactement nous expliquer de quoi il s'agit. Est-ce que un médecin vous a dit, peut-être qu'il va falloir programmer votre accouchement et peut-être même aller vers une césarienne? On vous l'a dit à ce moment-là?
Pas du tout. On ne me l'a pas dit. Ma sage-femme l'a caché. Le docteur, l'échographe aussi ne l'a pas dit. Et ma mère, quand je lui ai dit que j'avais ça, elle s'en doutait. Mais elle ne m'a pas dit de peur que je me fasse des soucis.
Vous avez découvert, on va dire, en urgence qu'il fallait justement qu'on vous opère pour faire naître le bébé.
Oui, j'ai découvert ça le jour même que j'ai commencé à coucher à l'hôpital parce que c'est...
Donc la naissance est faite dans l'urgence, hein?
La naissance s'est faite dans l'urgence.
Monique Monsali, on va recommencer par le début. Un placenta previa, c'est quoi?
Un placenta previa, c'est quand le placenta n'est pas implanté à sa place, c'est-à-dire elle est dans la partie basse de l'utérus.
Donc si on comprend bien, quand le bébé va naître, si la tête est positionnée vers le bas, hein, dans la posture la plus habituelle pour la naissance d'un bébé, il risque, on va dire, de faire éclater, d'écraser ce placenta et de créer une hémorragie très grave.
Effectivement. Normalement, pour cette dame-là, par exemple, on pouvait déjà poser le diagnostic d'une césarienne prophylactique, vu qu'elle avait déjà un placenta previa. Donc, elle devait déjà être préparée psychologiquement à une éventuelle césarienne.
Donc, ce que vous conseillez, vous, c'est exactement l'inverse. Quand on est face à ce genre de situation, ne surtout pas cacher la nouvelle à la maman. Et puis, peut-être aussi tout programmer à l'avance pour que tout cela se fasse dans les meilleures conditions, sans stress, en disant « voilà, vous allez être opérée, ce sera une césarienne et on va prendre notre temps de vous expliquer afin justement qu'il y ait le moins de stress possible. »
Effectivement, c'est important lors de nos consultations d'avoir cet échange avec la femme.
La confiance.
Et qu'elle sache, la confiance, établir cette relation de confiance et pouvoir dire à la femme sans lui faire peur ce qui se passe exactement avec sa grossesse. Donc lui expliquer déjà ce que c'était un placenta previa et à quoi s'attendre pendant le travail et l'accouchement, les différentes possibilités qu'il pouvait y avoir pour elle.
Sveta, vous avez des questions à poser à Monique Monsali, sage-femme, allez-y.
Oui, j'ai des questions, j'ai trois questions.
Allez-y.
Ma première préoccupation, c'est je suis de rhésus au moins. J'aimerais savoir ça, quel impact sur le fœtus. Quand on est enceinte, on découvre tout ça, mais on m'a expliqué en vain que ça allait mettre en danger la vie de mon bébé, qu'il fallait que je prenne des médicaments.
Qui vous a dit? Vous dites « on m'a expliqué ». Qui vous a expliqué?
À l'hôpital.
À l'hôpital.
Les différents médecins.
Le rhésus du papa, c'était quoi?
B+.
D'accord. Et vous avez d'autres questions?
Oui, j'en ai une autre. Je voulais savoir à quoi est dû le fait que j'ai eu un placenta previa. Est-ce que dans mes prochaines grossesses, ce sera le même cas qui va se répéter ou peut-être que ça va changer? Ma troisième question, c'est de savoir, est-ce que les douleurs pelviennes durant la grossesse sont normales ou bien c'est suite à une anomalie, à une complication?
Question très intéressante. On va commencer par question liée au rhésus, donc le sang. On retrouve souvent ces questions, Monique Monsali. Sveta est donc O négatif et on lui a dit que ça pouvait poser problème. Pourquoi?
Bon, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que quand on est enceinte, la circulation sanguine de la mère et celle du fœtus sont séparées. Elles ne se mélangent pas. Mais dans certaines circonstances, il peut y arriver que le sang du bébé passe dans la circulation maternelle. Donc, si le bébé est rhésus positif, ceci peut amener que le corps de la maman fabrique ce qu'on appelle des anticorps anti-D. Et quand ces anticorps anti-D sont fabriqués, pour le moment, il n'y a pas de risque pour la maman. Mais le problème, c'est que ces anticorps vont rester dans le système immunitaire de la maman. Et la prochaine fois qu'elle sera enceinte, son corps a tendance à fabriquer ce qu'on appelle des anticorps anti-D pour lutter contre les globules rouges du bébé qui est là, surtout si le bébé est rhésus positif, c'est-à-dire un rhésus contraire au rhésus de la maman.
Donc il faudrait être vigilant en cas de prochaine grossesse, c'est ça?
Effectivement. Et aussi être très vigilant après un accouchement ou un avortement, parce que il faut toujours, surtout un avortement, parce que après un avortement, on ne peut pas faire le groupage sanguin du bébé.
Donc, il faut faire attention, il faut bien indiquer, et de toute façon, vous le disiez en début d'émission, quand on a cet examen de sang en début de grossesse, c'est bien pour cela, pour prévenir ce genre de problème. Deuxième question importante, Sveta a eu un placenta previa. Est-ce que le risque est accru pour la prochaine grossesse de répéter, d'avoir à nouveau ce problème de santé?
Oui, désolée de le dire, mais oui, c'est bien possible. Parce que il faut voir les causes de ce qui peut amener un placenta previa. Voilà qu'elle a un utérus cicatriciel maintenant. Ça fait partie, c'est une des causes du placenta previa. Il y a des causes héréditaires. Bon, il y a beaucoup de causes qui peuvent amener une femme à avoir un placenta previa. Donc, elle peut s'attendre à ça. Mais comme je l'ai dit, très tôt déceler une bonne préparation psychologique de la femme et aussi un suivi adapté peut éviter vraiment des mauvaises surprises.
Troisième question, les douleurs pelviennes au cours de la grossesse, est-ce que c'est normal? Parce que là aussi, ça a été un problème pour Sveta.
Elle, pour son cas, je dirais que oui, c'est normal quand même de sentir des douleurs pelviennes parce qu'elle a eu ce qu'on appelle un placenta previa. Mmh. Et la plupart du temps, avec le placenta previa, les petits saignements qu'elle constatait s'accompagnent très souvent de douleurs pelviennes, mais qui devraient être pris en charge pour pouvoir soulager cette femme.
En tout cas, ce qui serait important pour une prochaine grossesse, c'est que Sveta donne bien toutes ses indications aux personnes qui vont la prendre en charge. Peut-être même d'ailleurs s'adresser directement à un gynécologue obstétricien. C'est ce que vous lui diriez, Monique Mansali, qu'elle soit plutôt suivie par un gynécologue?
C'est l'idéal, ouais.
Mmh. Voilà, Sveta, hein, merci beaucoup. Merci pour vos questions. Vraiment, c'était un témoignage très intéressant. Et double merci, puisque vous avez aussi choisi la chanson que nous allons écouter à présent, puisque ce sont bien sûr, vous le savez, nos auditrices, hein, le vendredi, qui sont à la programmation. Et dans Priorité Santé, tout de suite, Natacha Saint-Pierre avec « Tu trouveras ».
Comme tout le monde, j'ai mes défauts. J'aime pas toujours les mots qu'il faut. Mais si tu lis entre les lignes, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire. Il y a les fautes d'impression. Je t'aime un peu brouillon. Malgré les accords malhabiles, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas osé te dire.
Tu trouveras
mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Mes faux pas, mes maladresses. De l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Tu me restes.
Natacha Saint-Pierre, Priorité Santé, question de femme. On parle du suivi de la grossesse avec notre invitée en ligne de Dakar, Monique Mansali, sage-femme d'État. Certains symptômes qui peuvent désarçonner pendant la grossesse, c'est ce que nous raconte Jamila au Burkina Faso. L'une de ses amies est enceinte de 4 mois. Elle est devenue très émotive. Elle pleure énormément. En fait, elle pleure sans arriver à s'arrêter. Hein. Du coup, elle s'inquiète des conséquences que cela peut avoir sur son bébé. Monique Mansali, cette question, elle ne doit pas rester sans réponse. Quand on pleure tout le temps, on se demande pourquoi. Parce qu'on se dit, je devrais être heureuse, je suis enceinte, je pleure tout le temps, je suis enceinte. Pourquoi?
Au fait, pendant la grossesse, il y a un grand changement, que ce soit physiologique, psychologique, et c'est dû aux hormones, pour la plupart du temps. Il y a les changements d'humeur, les crises de larmes, les sauts d'humeur, l'hypersensibilité, colère, irritabilité, tant de choses. Mais toujours, il faut accompagner la femme enceinte, que ce soit à la maison, avec le partenaire, la famille. Et quand la femme est bien accompagnée, on peut lui épargner ce stress. Et pourra vivre une grossesse heureuse. Comme on le dit, la grossesse, c'est pas une maladie.
Donc, ce qu'on dit, c'est même quand la maman pleure beaucoup, on continue de la chouchouter, on s'occupe d'elle, on est à son écoute. Et maintenant, on part en République démocratique du Congo. On va retrouver Clarina, qui est en ligne de Kinshasa. Clarina, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes enceinte, c'est un premier bébé. L'accouchement, il est prévu pour quand?
Oh, je sais pas.
C'est loin. Vous êtes enceinte de combien de mois?
3 mois.
Alors, est-ce que vous avez consulté pour l'instant?
Pas encore.
Et pour vous, c'est important, justement, d'être suivie pendant la grossesse?
Oui, c'est important pour moi.
Vous allez le faire quand?
Lundi dans quelques jours.
Alors, vous allez bien sûr lundi poser des questions à la sage-femme ou au médecin qui va vous voir. Mais déjà, vous pouvez poser des premières questions, Clarina. Adressez-vous à notre invité et dites-lui carrément ce que vous avez envie de savoir sur votre santé de future maman.
On avait besoin de savoir seulement si maman a les groupes des O positifs, eux, le papa, les groupes des O positifs. Ça sera quoi la...
Ce seront quoi les conséquences pour la santé du bébé à naître? On comprend bien, Monique Mansali, hein, je disais tout à l'heure, beaucoup de questions qui concernent le facteur rhésus. Deux parents O positifs, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Clarina pour la rassurer, elle, comme le futur papa?
Clarina, je te rassure tout de suite. Le fait que vous et votre partenaire soyez du même groupe sanguin, c'est-à-dire O positif, n'a aucun impact négatif sur le bébé. Pour ça, vous pouvez être rassurée.
Clarina, excellente consultation. Hein.
Ok, merci.
Et des appels et des messages aussi sur la page Facebook de l'émission, comme celui de Khadidia de Mauritanie. Elle explique que l'une de ses amies enceinte de 9 mois n'a toujours pas accouché. Elle demande, elle vous demande, Monique Mansali, est-ce que c'est possible d'accoucher à 10 mois? Est-ce qu'il y a des risques pour le bébé?
C'est possible d'accoucher à 10 mois. C'est ce qu'on appelle le dépassement de terme. Bon, en matière de calcul de délai d'accouchement, nous, on parle en termes de semaines d'aménorrhée. Mais au-delà de 41 semaines jusqu'à 42, on parle de grossesse prolongée. Et au-delà de 40 semaines, c'est ce qu'on appelle le dépassement de terme. Et oui, il y a beaucoup de risques pour le bébé dans de tels cas. Des infections, l'enfant peut naître avec une infection. Il y a ce qu'on appelle le plus souvent et le plus fréquent, c'est l'oligoamniose, c'est-à-dire la diminution du quantité de liquide amniotique. Mm-hmm. Et du coup, cela peut donner des complications telles que le retard de croissance intra-utérine, telles que les souffrances fœtales aiguës. C'est-à-dire l'enfant né avec une détresse respiratoire, c'est-à-dire beaucoup de complications quand même. Même le score d'Apgar à la naissance n'est toujours pas normal. Et la plupart du temps, ces bébés sont gardés en soins pour surveillance, pour une antibiothérapie et tant d'autres choses.
Donc ça veut dire quand on a dépassé le terme, il faut vraiment se rapprocher de l'hôpital et rester sous la surveillance attentive des équipes d'obstétriciens.
RFI à Dakar, 92 FM.
Et on reste donc dans votre ville, chez vous à Dakar. On retrouve Awa. Awa, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, Awa, vous avez un projet de grossesse, mais vous avez déjà été enceinte. Il y a eu de graves complications. Racontez-nous.
Oui, en fait, j'étais enceinte en 2018. 5 mois après, j'ai eu quelques complications parce que j'avais des problèmes d'hypertension. Et là, par la suite, on m'a fait une césarienne comme ça parce que... Au début, on m'a hospitalisé. 3 jours après, j'ai perdu beaucoup de sang. Et j'entendais, les médecins me disaient qu'elle faisait une HRP. C'était une hémorragie rectoplacentaire. Mm-hmm. C'est ça. Et j'ai entendu aussi qu'on disait qu'elle fait une pré-éclampsie. On m'a fait une césarienne et là, j'ai perdu le bébé comme ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours traitée pour votre tension?
Oui, je suis allée contrôler au niveau des hôpitaux, mais là, on me dit que c'est normal.
Donc, vous n'avez plus de tension. Votre tension, elle est venue avec la grossesse et elle est partie avec cet épisode très douloureux où vous avez perdu votre bébé.
Oui, voilà. Et on m'a prescrivé des médicaments, Aldomètre et Aspegic. Mais j'avais aussi des maux de tête tellement terribles que je ne pouvais même pas dormir.
Et Awa, c'est important de le dire hein, parce que vous étiez prise en charge, vous étiez traitée, vous alliez régulièrement à vos consultations. Vraiment, vous avez fait de votre mieux pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Il y a eu cet accident. Alors, dites-nous les questions que vous souhaitez poser à notre invité.
J'ai 2 questions. Oui. La première est que est-ce qu'il existe un traitement ou bien est-ce que c'est réellement, je peux considérer réellement que ça c'est une maladie ou bien c'est un cas grave que je dois traiter. Et la deuxième question, est-ce que ça risque de m'arriver? Parce qu'à mon documenté, j'ai vu quelque part que la pré-éclampsie se répète. Et je veux vraiment qu'elle m'éclaircisse sur ces points-là.
Je comprends bien. Monique Mansali, c'est un témoignage très important parce que c'est vrai que l'hypertension, c'est un problème majeur hein, pour la santé des futures mamans. On l'a avec cette illustration tragique de ce qui est arrivé à Awa. On va aussi recommencer par une définition. La pré-éclampsie, c'est quoi?
Bon, la pré-éclampsie, c'est... Quand en fin de grossesse, c'est-à-dire au 3e trimestre, on voit que la tension artérielle de la femme est en train de monter Il y a aussi l'albuminurie et la protéinurie dans le sang qui est élevé. Donc, c'est des signes qu'il faut prendre en charge assez tôt pour éviter ce qu'on appelle l'éclampsie, ce qu'elle a eu à subir.
Est-ce que Awa devra avoir un suivi particulier compte tenu de ses antécédents d'hypertension pour la prochaine grossesse?
Oui, pour la prochaine grossesse, il faut déjà que les antécédents de Awa soient pris en compte. Mm-hmm. Comme elle-même, elle l'a dit, elle est très susceptible de refaire de l'hypertension artérielle. Maintenant, en début de grossesse, il faut que des mesures hygiéno-diététiques se prennent dès le début. Et aussi, dans son histoire, on voit qu'il y a l'hérédité. Son papa est hypertendu connu. Mm-hmm. Donc, elle est susceptible à développer l'hypertension artérielle. Donc, à ce moment-là, il faut déjà qu'elle fasse attention à l'alimentation, consommer moins de sel, beaucoup de fruits, boire beaucoup d'eau et aussi avoir une activité, c'est-à-dire de faire des exercices physiques réguliers.
C'est ce qu'on appelle justement, ce que vous disiez, les règles hygiéno-diététiques, prendre soin d'elle-même pour éviter de connaître les mêmes problèmes de santé. On vous remercie beaucoup pour votre témoignage, Awa. Hein, l'enseignement numéro un, c'est vraiment de vous faire suivre lorsque vous aurez ce projet de grossesse, peut-être même consulter avant pour adopter des bons réflexes, des bonnes habitudes pour que tout se passe au mieux la prochaine fois. Une autre capitale, c'est Conakry, et une autre auditrice qui se prénomme Awa, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors, expliquez-nous, Awa, pourquoi vous vouliez intervenir au cours de cette émission. Vous avez un problème qui remonte à votre première grossesse, racontez-nous.
Je suis une mère et j'ai une fille de 4 ans. Pendant ma grossesse passée, du début jusqu'à la fin, je souffre d'une infection vaginale très aiguë. Alors, j'ai suivi des traitements, on m'a prescrit des antibiotiques jusqu'au long de ma grossesse. Et malheureusement, ça n'a servi à rien du tout. Mais par contre, vers la fin de la grossesse, il y a eu un gynécologue qui m'a reçu, qui m'a consulté et qui m'a prescrit un médicament du nom de colpocéptine. Ce médicament n'a pas traité, mais par contre, je m'en peux soulager par contre, voilà. Ce médicament m'en peux soulager et j'ai continué avec ça. Donc, ma question qu'est-ce qui cause ces infections prénatales? Vu que moi, particulièrement, j'ai respecté strictement les règles d'hygiène lors de ma grossesse, en fait.
Ah ouais, moi j'ai une question. On vous a prescrit des médicaments, notamment des antibiotiques. On a dit que c'était quoi le nom de cette infection? C'est quoi précisément?
Bon, je ne me rappelle plus du nom de l'infection par contre. On m'a dit que c'est une infection qui peut arriver pendant la grossesse.
On vous a dit que l'infection était liée à la grossesse. C'était par exemple pas une infection sexuellement transmissible?
Non, pas du tout. Non, c'était lié à la grossesse, oui.
Awa, cette question qu'elle pose justement sur une infection, Monique Mansali, qui serait directement liée à la grossesse, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vrai que pendant la grossesse, les femmes ont tendance à avoir des pertes vaginales, mais tant que ça ne crée pas un inconfort, c'est-à-dire ça ne gratte pas, ça ne chauffe pas, ça n'a pas d'odeur, c'est possible, il peut y arriver, puisque en début de grossesse, la défense immunitaire de l'organisme est particulièrement vulnérable. Donc du coup, la flore vaginale est attaquée par des virus, des bactéries et des champignons. Mais quand même, il faut pas les négliger, parce que quand c'est négligé, ça peut se compliquer d'un moment à l'autre et créer encore d'autres complications, que ça soit sur la mère, mais aussi et surtout sur le fœtus.
Ah ouais, est-ce qu'on vous a fait des prélèvements pour identifier précisément l'agent pathogène, la bactérie qui est en cause?
Au début de la grossesse, ils ont fait des prélèvements, ils ont fait des analyses, ils ont vu qu'il y avait l'urine était d'une coloration jaunâtre, qu'il y avait quelques infections au niveau de l'urine. Donc, ils m'ont prescrit les médicaments, mais ça m'a un peu soulagée pour le début, mais à la fin, vers 7e-8e mois, j'ai vraiment souffert d'une infection vaginale aiguë avec des gratinures. Ça, je sais, à chaque fois que j'ai gratté, il y avait des chuchures, quoi.
Et aujourd'hui, vous prenez encore un traitement? Vous prenez quoi?
Aujourd'hui, non. Parfois, quand j'ai quelques infections rarement, là, j'utilise le même produit qui me soulage juste à présent.
Et quand vous avez des problèmes, vous prenez ce médicament sans consulter à nouveau. Comme ça, vous allez à la pharmacie, vous rachetez ce médicament.
C'est ça, même exactement.
Sans savoir forcément, d'ailleurs, si c'est la même chose. Hein. Donc, vous ne pouvez même pas être sûr que vous êtes en train de traiter la bonne chose, puisque vous n'êtes pas allé voir un médecin.
Ça, c'est vrai.
Et vous faites aussi une toilette spéciale, justement, pour essayer de limiter, par exemple, les démangeaisons?
Oui, j'utilise des gels, des toilettes intimes. J'utilise Intima déjà. C'est un produit qu'on va à la pharmacie.
Est-ce que vous faites d'autres gestes sinon en matière de toilette?
Non.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Monique Monsalie, quand on a souffert d'une infection et plusieurs années ensuite, eh bien, on continue à prendre les médicaments sans aller voir un médecin?
Ouais, comme vous l'avez dit, c'est pas la bonne conduite à tenir. Bon, là, ce que je vais vous conseiller, c'est d'aller voir un spécialiste. Parce que en matière d'infection, il y a plusieurs germes pathogènes qui peuvent être mis en cause. Ça peut être un virus, un champignon, des bactéries. Donc, il faut aller voir un spécialiste qui va vous prescrire un prélèvement vaginal et demander en même temps un antibiogramme. Là, on va identifier l'antibiotique qui sera efficace pour votre traitement et vous le traitez une bonne fois pour toutes. Et n'oubliez pas, le traitement doit se faire avec le partenaire aussi pour une bonne efficacité.
Ah ouais, vous avez bien compris justement ce que vient de dire Monique Monsalie, qui est sage-femme. Il faut vraiment identifier le problème dont vous souffrez pour choisir le médicament adapté. C'est vraiment quelque chose de très important. Vous êtes allé voir un gynécologue récemment?
Non, récemment non. Mais j'y pense bientôt. Bientôt j'irai voir un gynécologue.
Je pense qu'il faut passer de la pensée à l'action, Awa, dans votre cas. Et je suis sûre que vous porterez beaucoup mieux, vous serez beaucoup mieux dans votre peau, n'est-ce pas?
Normalement, oui.
Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous dit au revoir, Awa.
RFI à Yaoundé. 105.5 FM.
Le Cameroun, on y retrouve Maria à Yaoundé donc. Maria, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, c'est votre première grossesse. Est-ce que vous êtes suivie par un médecin?
Oui, j'ai rencontré une gynécologue il y a 2 semaines, 2 ou 3, hein, 3 je pense.
Et qu'est-ce que vous avez subi comme examen jusqu'à maintenant?
Les premiers examens ont été d'abord une échographie pelvienne et une échographie endovaginale, un PCV et un autre dont j'ai oublié le nom, malheureusement.
C'est pas très grave. Depuis le début de votre grossesse, vous avez des petits problèmes?
Oui. J'ai eu très mal au bas-ventre. J'ai eu très mal au bas-ventre au départ et j'ai eu des saignements également.
Et qu'est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là?
Parce que j'avais mal au bas-ventre, la gynéco a demandé une échographie pelvienne. Et puis, pour les saignements, on a fait une échographie endovaginale.
Et après, elle vous a donné des conseils en termes de conduite à tenir quand vous revenez à la maison?
Oui, entre autres, de ne pas avoir de relations sexuelles pendant 1 mois, parce que les saignements étaient des saignements d'implantation, comme elle a dit.
Alors, ne pas avoir de relations sexuelles pendant 1 mois, vous en avez pensé quoi, vous, finalement? Vous étiez d'accord pour que tout ça s'arrête et que vous repreniez un petit peu des forces?
Oui, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Encore que je ne me sens plus très apte pour la chose. Quoi.
Vous avez beaucoup moins de désir en ce moment, hein?
Voilà.
Comment ça se passe avec votre compagnon? Lui, il vous presse un petit peu de recommencer? Vous n'avez pas très envie?
Il m'a clairement fait comprendre que mon état est comme un stimulant pour lui. Là, lui a l'impression que parce que je suis enceinte, il est davantage attiré par moi. Sauf que chez moi, c'est bloqué complètement. Je crains de faire du mal à l'enfant. Je crains que l'enfant ait mal avec tout ça. Je suis complètement bloquée.
Vous êtes complètement bloquée. D'un côté, ce qu'il vous dit, c'est en même temps des compliments. Il est amoureux de vous. Il vous trouve très désirable. Mais vous avez des peurs. Une première chose, Monique Monsalie, pour rassurer Maria, quand on a des relations sexuelles avec son conjoint lorsque l'on est enceinte, on ne fait pas mal à l'enfant.
Bien sûr, effectivement. Bon, Maria, c'est vrai que dans votre cas, par mesure de sécurité, votre gynécologue vous a demandé d'arrêter les rapports sexuels pour une période à cause de vos saignements. Et comme ces saignements sont dus à l'implantation de l'œuf, donc c'est quelque chose de passager. Donc, en début de grossesse, l'utérus est un peu bas et du coup, lors des rapports sexuels, le sexe du partenaire peut stimuler le col et peut-être créer une complication telle qu'un avortement. Mais bon, puisque c'était juste pour une période d'1 mois, là, vous n'avez plus à craindre. Donc, votre gynéco fera le contrôle et tout. Et si tout est OK, vous pourrez redémarrer vos activités sexuelles sans souci. Et ça vous aidera aussi à avoir une grossesse épanouie. Et ne vous inquiétez pas, au contraire, vous ne faites pas du mal à votre bébé, mais du bien.
En même temps, hein, même quand il y a trop de pression, ça peut être fortement désagréable. Il faut aussi être entendu par son conjoint quand celui-ci vous presse. Eh bien, prendre son mal en patience jusqu'à ce que son épouse soit prête, c'est essentiel. Maria, vous arrivez à lui trouver les mots, justement, pour que ça se passe bien et que vous puissiez lui dire, écoute, moi aussi je t'aime, mais là pour l'instant, il faut me laisser un petit peu tranquille. Ça va revenir, mais tout doucement, on va être patients tous les deux. Vous arrivez à lui dire ?
Oui, oui, je parviens. Heureusement, il est quand même compréhensif. Mmh. Il est compréhensif. Je ne peux pas dire qu'il me presse. Il m'a juste fait comprendre qu'il est dans un passage assuré. Mais je ne peux pas dire qu'il me presse.
Écoutez, Maria, on vous souhaite une très bonne continuation pour cette grossesse. Hein. Vous êtes bien suivie, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On vous remercie infiniment pour ce témoignage. Merci pour votre question. Merci à vous, Monique Mansali. Grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Et on va se dire au revoir maintenant avec un choix musical. C'est aussi celui de Maria, hein, Maria que l'on vient d'entendre avec cette question. Avec Simi, ce titre « Doudouké », une voix du Nigeria, pour se dire à la semaine prochaine.
First, let me say to you, I can't wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I dey pray for the day when I can finally kiss you. You know, say every day I dey pray for you. That's why my heart it a beat like do do care, do do care. Cause now you I choose, so oh, I am fair, me I'm not fair. I sing for you wanna be like do do care, do do care. Baby now you I go pick up, oh, I am fair, me I'm not fair. But there we go. See I may not give the word to you, but I'll give you what I have. That's why my heart it a beat like do do care, do do care. Cause now you I choose, so oh, I am fair, me I'm not fair. I sing for you wanna be like do do care, do do care. Baby now you I go pick up, oh, I am fair, me I'm not fair. Only for you it a be like do do care, do care, oh. I sing for you, oh, my baby, oh.
Priorité santé sur RFI.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sunwa Assurance, qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.